Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors, le volapük européen, selon donc le terme de Charles de Gaulle. Sébastien Maillard, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Marion Gaillard, vous êtes historienne spécialiste des relations franco-allemandes. On a évoqué le couple franco-allemand dans la première partie. Comme on a pu l'entendre, vous n'êtes pas complètement critique de l'idée européenne, mais les peuples, en tout cas certains peuples, l'ont été lors des élections précédentes, d'où les tendances que l'on voit émerger entre autoritarisme en Pologne, par exemple, en Hongrie, populisme, c'est ainsi en tout cas qu'on a qualifié le Brexit et sa décision, n'est-ce pas finalement une réaction, alors vous qualifierez sa légitimité, à une Europe qui est quand même très largement perçue comme souffrant d'un déficit démocratique, d'un caractère bureaucratique on va dire souligné, et puis également eh bien, d'une forte propension à soutenir des intérêts contraires à ceux des peuples. Votre impression à ce sujet, Marion Gaillard?
Alors, c'est vrai que l'Europe, elle est souvent accusée de déficit démocratique. Quand on regarde vraiment le processus de décision, on ne peut pas dire qu'il n'est pas démocratique. Donc, il faut chercher ailleurs que dans, je dirais, les aspects juridiques du processus décisionnel, cette sensation de déficit démocratique qu'ont les populations. Et je pense que ça vient beaucoup du fait que, en démocratie, il faut savoir qui est responsable de quoi. Comment on peut sanctionner ceux qui sont responsables et comprendre de quoi ils retournent. Or, pour l'Europe, on ne comprend pas toujours de quoi ils retournent. Je suis pas sûre qu'eux-mêmes toujours le sachent, d'ailleurs. Par ailleurs, on a beaucoup de mal à savoir qui est responsable de quoi, parce que, aussi, les institutions européennes, leur fonctionnement, sont très mal expliqués aux citoyens. C'est pas si difficile, en fait, d'expliquer comment ça marche. Et tout le monde pense, en France et ailleurs, que, par exemple, la Commission prend des décisions. La Commission ne prend pas de décision. Elle propose et les décisions sont prises par les ministres des États membres au sein du Conseil des ministres et le Parlement européen qui est légitime. Donc tout ça est très démocratique. Faudrait-il encore se donner les moyens d'expliquer aux populations comment ça marche? Ça, ce serait le premier point. Et puis ensuite, effectivement, parfois, avoir un petit peu plus de transparence dans les discussions du Conseil des ministres, par exemple.
Sébastien Maillard.
Sur le papier, tout est parfait. Si on regarde les traités, effectivement, on a un Parlement européen qui est une Commission européenne, pardon, qui est responsable devant le Parlement européen, qui peut la renverser. C'est déjà arrivé d'ailleurs historiquement une fois qu'une Commission tombe sous l'effet du Parlement européen, qui aussi a son mot à dire sur la composition de cette Commission, puisque les commissaires sont auditionnés par les députés européens et qui peuvent, c'est arrivé aussi, en refuser certains. Et on a vu aussi aux élections européennes que c'est le parti qui arrive en tête, qui du coup, c'était le cas en 2014, c'est comme ça que Jean-Claude Juncker est arrivé à la tête de la Commission. Pourquoi? Parce que son parti, le PPE, le Parti Populaire Européen, qui regroupe toutes les droites européennes, est arrivé en tête. Donc du coup, c'était lui le candidat de tête, et c'est lui qui a pris la tête de la Commission. Donc là-dessus, tout va bien, mais on sent bien que, en fait, même si juridiquement ça tient la route, l'esprit n'y est pas. Et c'est ce qu'on a voulu écrire dans le livre avec Enrico Letta sur son expression que, en fait, la démocratie européenne, elle joue en division 2 et pas en division 1, si je peux employer une métaphore footballistique. C'est-à-dire que on envoie des anciens ministres ou des seconds couteaux un peu s'amuser à Strasbourg le temps de se refaire une santé politique et après ils reviennent dès qu'ils peuvent. Si aujourd'hui le président du Parlement européen, Monsieur Tajani, voit une occasion d'être Premier ministre en Italie, il ira. Ça veut dire que on joue un peu, presque comme avait fait Poutine et Medvedev quand ils ont changé les postes. T'es Premier ministre, je suis président. Alors ça, effectivement, ça écœure les peuples, très justement. Et donc, si effectivement, être député européen, on parlait de Jean-Luc Mélenchon qui l'a été, ou de Marine Le Pen qui l'ont été aussi, si c'est uniquement... c'est comme ça, avoir un mandat pour en avoir un en attendant de trouver autre chose. Comment voulez-vous que les électeurs prennent ça au sérieux? Puisque eux-mêmes, les politiques ne prennent pas la démocratie européenne au sérieux.
Oui, mais là, dans votre discours, tous les deux, vous sous-entendez qu'il y a finalement une appétence pour la démocratie en Europe. Autrement dit, que si l'Europe va mal, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de démocratie ou que cette démocratie n'est pas suffisamment expliquée. Quand vous prenez, par exemple, la Pologne ou la Hongrie, vous voyez bien que finalement les modèles qui sont choisis, par exemple au travers de Viktor Orban, ne sont pas nécessairement des modèles démocratiques. Alors, on peut le déplorer, s'en féliciter, j'entends rarement des gens s'en féliciter en France, mais bon, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a chez certains peuples un désir d'asseoir une identité. Il y a eu une manifestation avec 70 000 personnes à Varsovie il y a 10 jours où on souhaitait clairement le retour à une extrême droite qui était une extrême droite ancienne, qui n'est pas du tout le modèle de l'extrême droite post-fasciste. C'était quasiment le retour à une extrême droite pré-fasciste avec une Pologne qui se voulait comme étant ethniquement pure. Bref, on avait l'impression de revenir dans les années 20. Alors, encore une fois, c'est probablement quelque chose que l'on peut déplorer, mais c'est aussi quelque chose qui, manifestement, tourne le dos à la démocratie, Sébastien Maillard.
Oui, c'est préoccupant. Lorsqu'on parle de démocratie européenne, à l'échelle de l'Union européenne, qu'elle joue en division 1, ce serait une des réponses. Mais là, pour les pays que vous évoquez, ce qui est frappant, c'est de voir que, après la chute du mur, entrer dans l'Union européenne, rejoindre la grande famille, je dirais, par rapport à l'ex-URSS.
C'était l'entrée dans la modernité.
C'était ça, et c'était aussi un projet national. C'était la Pologne se retrouver elle-même, et c'est quelque part se retrouver autour de ce projet que maintenant on est reconnu comme une vraie nation européenne à part entière, et on retrouve notre place. Et donc jusqu'à leur entrée dans l'Union européenne, c'était au contraire un projet national que d'être européen. Et là, ce qui est frappant, c'est que on sent une vraie insécurité culturelle, si je peux employer cette expression, maintenant qu'on est dedans, où est notre place? On est des pays vieillissants, il y a une vraie crainte peut-être un jour de disparaître, puisque historiquement la Pologne l'a été, les populations,
les frontières, en tout cas,
les populations sont donc en diminue, et donc il y a une vraie insécurité culturelle, et là-dessus effectivement ce n'est pas Bruxelles qui peut vraiment répondre à ça, elle n'est pas armée, et il y a une grande souvent confusion lorsqu'on parle d'appartenance à l'Europe, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Il ne s'agit pas de se sentir appartenir à une organisation. On ne peut pas se sentir appartenir à l'UE comme on appartiendrait à l'OCDE ou à telle organisation froide. Lorsqu'on appartient à l'Europe, c'est au-delà des institutions. C'est faire partie, partager des valeurs. Et ça se travaille bien au-delà des seules institutions européennes.
Alors, comment pouvez-vous, du coup, imaginer l'avenir d'une Europe qui chercherait donc à rassembler des pays aussi divers que la Pologne ou la Hongrie dans ces conditions, Sébastien Maillard? Quel discours tenir à ces pays qui, encore une fois, n'ont apparemment pas envie d'un modèle démocratique transnational comme celui que l'Europe propose?
La démocratie, c'est un principe de base de la construction européenne. On ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on ne remplit pas ce qu'on appelait à l'époque les critères de Copenhague de 1993, mais ça veut dire être un État de droit dans son fonctionnement. Là-dessus, il n'y a pas d'Europe à plusieurs vitesses sur l'État de droit. Ça fait partie de même que, par exemple, abolir la peine de mort, ça fait partie des choses qu'il faut avoir fait pour rentrer. Et donc, c'est dans le contrat. Si on respecte plus ce contrat, c'est qu'on partage plus vraiment ces mêmes valeurs. Alors là, on peut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'être européen.
Vous voulez poser ?
Non, parce que je pense que...
Est-ce que vous pensez que l'on peut imaginer que ce que l'on voit aujourd'hui poindre, encore une fois, en Pologne, en Hongrie, eh bien, prennent de l'ampleur, on pourrait parler aussi de l'Autriche, et du coup, eh bien, se transforment en véritable problème, puisque on aurait finalement différentes dérives autoritaires en Europe qui seraient incompatibles, encore une fois, comme vous le dites, avec le projet européen.
En analysant ces scrutins, il y a une grande part de rejet. Ça ne veut pas dire que non plus que toute la population vote comme un seul homme pour ces partis. Et effectivement, ça appelle des réponses concrètes et que ce serait trop facile aussi de décharger sur ces partis en disant voilà, à cause d'eux, on peut rien faire. Mais ça appelle une vraie responsabilité des partis qui payent aussi le fait de s'être beaucoup déchargé sur Bruxelles ces dernières années.
Marion Gaillard, votre impression?
Oui, Sébastien Maillard disait, pour rentrer dans l'Union européenne, il faut être un État de droit. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec des pays qui sont déjà dans l'Union européenne et qui s'éloignent de manière très claire de l'État de droit? Donc en fait, on a mis des conditions pour rentrer. on a fait en sorte qu'ils les respectent plus ou moins, mais après, on est un petit peu coincé. Alors, on a un recours juridique qui est l'article 7 du traité de Lisbonne, qui prévoit qu'on peut constater une violation des valeurs de l'Union européenne et, du coup, punir les États, notamment en leur retirant le droit de vote. Le problème, c'est que ce constat de violation des valeurs, il doit se faire à l'unanimité des États membres, et on imagine bien qu'on ne voit pas Viktor Orban condamner la Pologne et inversement la Pologne condamner Viktor Orban. Donc on a un sérieux problème. Et on est attendu là-dessus parce que beaucoup de gens nous disent, mais alors, on a fait une Europe de la démocratie avec des valeurs blablabla blabla, et en fait, on fait rien.
Alors, donc, tout cela reste théorique, mais quelles pourraient être les violations de ces valeurs? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Marion Gaillard?
On le voit déjà, apparemment, si je veux dire, avec l'atteinte à la liberté de la presse, la façon dont on nomme les juges.
Dont on peut les révoquer.
Voilà, donc ça on l'a vu en Hongrie et en Pologne, et donc ça donne lieu effectivement à des recommandations de la Commission envers ces pays. Mais effectivement, l'article 7 dont on parlait, c'est un peu la bombe nucléaire, on peut pas appuyer dessus. Ça veut dire vraiment... quasiment commencer une procédure d'exclusion de ce pays. Alors, l'autre argument possible, ça veut dire effectivement qu'on peut travailler sur les fonds européens qu'on verse à ces pays, et c'est peut-être ce qui va, l'année prochaine, la grande discussion qui va avoir lieu, c'est d'accord, tu respectes pas la démocratie, tel budget qui était prévu pour toi, on le bloque.
Parce que oui, pour l'instant, il faut quand même rappeler que les fonds européens, pour l'instant, sont parfaitement acceptés par la Pologne et la Hongrie. Il n'y a pas eu refus des transferts bancaires.
D'ailleurs, j'ai vu que Emmanuel Macron proposait justement qu'on conditionne le versement de ces fonds structurels au respect des valeurs et de la démocratie et de l'état de droit. Mais en fait, au-delà du problème juridique de déclencher ou pas l'article 7 et du blocage de l'unanimité pour le faire, on a un problème plus politique, parce que quand on regarde les discours de l'opposition, notamment de l'opposition polonaise, parce qu'effectivement, comme le disait Sébastien Maillard, toute la population ne suit pas comme un seul homme ces partis politiques. Donc il y a une opposition dans ces pays, mais souvent cette opposition, et c'est particulièrement vrai pour la Pologne, dit à l'Europe, surtout vous en mêlez pas, parce qu'on n'aime pas les ingérences extérieures, on a déjà vécu sous la tutelle soviétique, donc laissez-nous faire le job, à nous l'opposition polonaise, et surtout que l'Europe fasse rien, parce que ce serait contre-productif. Le problème, c'est que du coup, on a l'air de quoi si l'Union européenne ne défend pas ses valeurs et ne sanctionne pas? Elle est ridiculisée. D'un autre côté, si elle le fait, elle est contre-productive. Alors c'est un petit peu la quadrature du cercle.
Surtout que c'est compliqué quand même pour la Commission européenne de faire de la politique de manière aussi ouverte.
Tant qu'elle se base sur le droit, elle est dans son droit. Mais on l'a vu même en France, lorsqu'en 2010, la Commission européenne, c'était la commissaire Viviane Reding, avait critiqué le gouvernement de Nicolas Sarkozy sur les expulsions de Rome. Tout de suite, là, la France se dit, mais pour qui se prend Bruxelles, c'est pas ses affaires. Donc, effectivement, ça, même si imaginons si la Commission proposait et qu'on votait de geler les fonds structurels dévolus à la Pologne ou à la Hongrie, déjà, effectivement, c'est des fonds en moins pour les populations de ces pays. Et donc, ça peut être contre-productif politiquement. Là-dessus, le maintien du dialogue est essentiel. Et on peut aussi se poser la question au niveau politique. Pourquoi est-ce que Viktor Orban est toujours dans le même parti qu'Angela Merkel ou que Jean-Claude Juncker, c'est-à-dire le Parti Populaire Européen? Ils font partie de la même famille européenne. Là, ils peuvent aussi se poser des questions en interne.
Et la réponse?
La réponse, c'est effectivement qu'il est urgent que le Parti Populaire Européen prenne ses responsabilités et prenne acte des dérives de Viktor Orban, parce que ça, c'est un réel problème.
Je voulais juste... rappeler ces dérives en quelques mots.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un contrôle de plus en plus important sur les médias, avec clairement une censure de la presse, des renvois, des intimidations, la possibilité de révoquer des juges, de les mettre à la retraite prématurément, etc.
Une campagne contre George Soros ouverte.
La fermeture de l'université.
Peut-être qu'on peut présenter cette campagne donc menée contre George Soros, lequel est, comme on le sait, un milliardaire américain qui a financé un certain
d'origine hongroise, me semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Qui a financé donc la création d'une fondation Open Society, laquelle a ouvert un programme universitaire. Et aujourd'hui, Orban se sert du nom de Soros, lequel est juif aussi, il faut le dire. Pour expliquer-nous, Marion Gaillard.
Non, mais c'est ça, il se sert de son nom comme d'un bouc émissaire qui représente à la fois l'étranger, le juif, l'Amérique, etc., au détriment de la culture hongroise.
Donc, et il y a une sorte de référendum qui est aujourd'hui en cours en Hongrie, qui est un référendum complètement délirant, parfois postal, qui incite donc les Hongrois à se prononcer autour de ce projet de fermeture de l'université Soros.
Oui, non, c'est effectivement, c'est inimaginable que dans l'Union européenne de telles pratiques aient lieu. Mais on sent bien effectivement que l'Union européenne est embarrassée, un peu démunie face à de telles attaques et à l'état de droit. Et donc, elle doit encore avoir des instruments plus sophistiqués. On a une agence européenne des droits fondamentaux. Peut-être qu'il faudrait la renforcer pour qu'elle puisse.
Mais la Pologne, en tout cas, a un opt-out sur la charte des droits fondamentaux.
Un opt-out.
C'est-à-dire qu'ils ont demandé une clause d'exemption. Donc, la charte des droits fondamentaux qui a obtenu une valeur juridique. Elle a été adoptée en 2000. Elle a obtenu une valeur juridique dans le traité de Lisbonne, et trois pays ont demandé des clauses d'exemption, la Grande-Bretagne, la Pologne et la République tchèque, donc pas la Hongrie en l'occurrence, mais là aussi on a un problème parce qu'on a quand même des pays qui ne se sentent pas tenus par cette charte des droits fondamentaux et on l'a autorisée.
Pour essayer de résumer la situation, en fait, nous avons plusieurs problèmes. On a également un problème autrichien. On écoute la voix de Sébastien Kurz.
Je peux vous promettre aujourd'hui que l'on va mettre fin à l'immigration illégale pour rétablir l'ordre et la sécurité en Autriche. Ceux qui sont venus en Europe illégalement grâce à des réseaux de passeurs ne doivent avoir aucune chance de déposer une demande d'asile chez nous. Ils doivent être renvoyés.
Le nouveau chancelier autrichien Sébastien Kurz, et là on voit clairement Marine Gaillard, cet homme a été choisi, vient de l'être d'ailleurs, élu par conséquent, aujourd'hui, cette Europe, c'est celle-ci. On est très loin finalement de l'idée que l'on pouvait avoir à la fin des années 80, qu'il y avait à la fois une transition vers la modernité, une sortie du communisme, et puis une construction d'États qui étaient des États forts. À l'époque, on se disait par exemple que la xénophobie, elle allait baisser au fur et à mesure que les États deviendraient des États forts. On voit que ça n'est malheureusement pas du tout ce qui s'est produit, non seulement ça, mais ce ne sont pas tellement ces États qui sont forts, ce sont en réalité ces pouvoirs qui se vivent de plus en plus comme des pouvoirs autoritaires.
Oui, des démocraties illibérales, comme l'a souligné Viktor Orban. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de fin de l'histoire, comme l'avait annoncé Francis Fukuyama. Finalement, la guerre froide n'a pas ouvert une page de modernité, démocratie, paix, etc. Il faut quand même rappeler que Sébastien Kurz a un discours, comme on vient de l'entendre, extrêmement populiste, mais il est membre de la droite conservatrice classique autrichienne et pas de l'extrême droite. En revanche, il est en train de négocier l'entrée éventuelle de l'extrême droite dans son gouvernement. Ce serait une sorte de Laurent Wauquiez, j'allais dire, autrichien. Voilà, je vais peut-être m'attirer certaines colères aujourd'hui.
Je dirais qu'il est plus à droite que Laurent Wauquiez.
D'accord.
Vous n'avez pas l'air d'être convaincu, c'était une suggestion. Sébastien Maillard.
Oui, ce qui se passe en Autriche est compliqué. On parlait tout à l'heure de relancer l'Europe, de la réformer. C'est vrai que pour la France, trouver aujourd'hui des partenaires avec qui on va pouvoir avancer sur, notamment, la grande question, c'est et qu'il faut vraiment avoir résolu avant les élections européennes de 2019, c'est avoir une politique migratoire convaincante, commune. Et là-dessus, on a encore d'énormes progrès à faire parce que la réponse des frontières ne peut pas être la seule réponse, et surtout par rapport à des pays vieillissants. Donc on a besoin à la fois de se mettre d'accord sur qu'est-ce que pourraient être des voies légales de migration en Europe, reconnues communément, et aussi se mettre d'accord aussi sur qu'est-ce que pourraient être des pays d'origine sûrs ou pas, pour qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'un réfugié, puisque on peut être demander le droit d'asile dans tel pays et être accepté, et dans tel autre, non. Donc là-dessus, il y a énormément de progrès à faire, et avec ces pays-là, ça va être très difficile.
D'autant qu'on se dit, Marion Gaillard, que la situation que l'on observe aujourd'hui en Allemagne, elle est la conséquence de l'accueil des réfugiés, le vote AfD qui met finalement en péril Angela Merkel, peut être perçu, je pense que c'est pas très audacieux comme interprétation, comme une conséquence de cet accueil de réfugiés qui a manifestement déplu à une part des électeurs allemands.
Oui, la question des réfugiés, c'est une des explications de la chute en termes de points. Hein, je ne parle pas de la chute finale d'Angela Merkel, mais ce n'est pas la seule. Ceci dit, oui, il y a toute une partie de la population qui ne l'a pas acceptée, mais il faut quand même souligner qu'il y a toute une partie de la population qui l'a acceptée, qui en a été fière, qui s'est donné les moyens aussi d'accueillir dans des conditions dignes les réfugiés. En revanche, sur la question justement des pays sûrs, ça fait partie des points sur lesquels la coalition jamaïcaine a aussi acheté chopé puisque les Verts et les libéraux n'étaient pas d'accord sur la liste des pays sûrs. Donc on voit que ça, c'est déjà c'est compliqué au niveau des partis en Allemagne. Donc on imagine bien que dans l'Europe à 27 ou 28 si on compte encore les Britanniques, eh bien ça sera très difficile de se mettre d'accord sur ces pays sûrs.
Ça, ce sont pour donc les tentations autoritaires. Pour les tentations populistes, ou en tout cas qualifiées comme telles avec le Brexit, là aussi, et lorsque le Brexit a eu lieu, on avait tendance à prédire la fin du monde, la fin de l'Angleterre. Aujourd'hui, on n'a toujours pas affaire à la fin de l'Angleterre, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec cette analyse, Sébastien Maillard.
Le Brexit n'a pas encore eu lieu. Hein. Le Brexit est en cours de négociation. Et le compte à rebours est lancé jusqu'au 30 mars 2019. On ne peut pas dire qu'en même temps, les perspectives de la Grande-Bretagne soient réjouissantes.
Pourquoi ?
Et bien, lorsqu'on regarde finalement quelle va être sa relation future avec l'Union européenne, est-ce qu'elle va être capable elle-même effectivement d'être une sorte de Singapour atlantique qui négocie des traités de libre-échange favorables avec tout le monde? On sent que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que le Brexit n'a pas fait à ce stade, n'a pas divisé encore, en tout cas, les Européens, ils sont plutôt bien, les 27, à rester fermes pour être face à la Grande-Bretagne, qui, du coup, est en crise politique grave aussi, au sein même du parti de Theresa May. Et donc, actuellement, ils sont plutôt à se reposer la question, est-ce que finalement, on a bien fait ?
Ça, c'est pour le passif du Brexit. À l'actif, l'activité économique ne s'est pas effondrée. Il y a eu probablement des départs de sièges sociaux, de salariés, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire aujourd'hui que cela ait nui à l'économie britannique.
Il y a une grande incertitude, en tout cas juridique, qui est nuisible au climat. Bien sûr, c'est mais à terme, à long terme, en tout cas, les effets peuvent être une chute de 10% du PIB au Royaume-Uni. En tout cas, ça, c'est les projections que font les économistes. Donc, il y a quand même vraiment un risque, surtout d'isolement politique aussi de ce pays.
Votre opinion, Marion Gaillard, là-dessus, sur le discours finalement d'un certain nombre de responsables européens qui pouvaient être perçus comme infantilisant, comme si on n'avait pas finalement retenu les leçons de cette campagne autour du traité sur le référendum européen qui avait donc, il y a 22 ans, été considéré comme finalement une date importante parce que on demandait au peuple de voter oui et le peuple n'a pas voté comme on attendait qu'il le fasse. Et donc il y avait là une forme de... on va dire, de discours qui pouvaient être perçus, encore une fois, comme incapables de comprendre les aspirations des individus.
Oui, c'est un peu le piège, toujours, le référendum pour la construction européenne, parce que ce sont des matières, comme on l'expliquait tout à l'heure, extrêmement compliquées. Et c'est pas méprisant de ma part que de dire ça. Hein. J'enseigne les questions européennes, je ne comprends pas tous les termes des traités. Donc c'est très très compliqué de faire un référendum là-dessus. Du coup, ça apparaît toujours comme un peu méprisant, infantilisant. Si vous votez pas oui, ce sera le chaos. Là, on a l'occasion de voir ce qui va se passer vraiment sur le moyen terme. À court terme, effectivement, il n'y a pas d'effet catastrophique, mais il y a quand même eu une chute du cours de la monnaie britannique. On va voir sur le moyen terme. C'est possible quand même que les effets soient assez négatifs parce que j'allais dire les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne a finalement choisi en 73 d'intégrer la communauté économique européenne. Elles n'ont pas disparu comme par enchantement. La peur d'une sorte de blocus continental est toujours là, et j'allais dire encore plus, parce que la plupart des anciens partenaires de la Grande-Bretagne au sein de l'Association européenne de libre-échange font maintenant partie de l'Union européenne. Donc il y a quand même un problème au niveau des négociations commerciales ensuite sur ce que va devenir l'Angleterre.
Sébastien Maillard.
L'intérêt du Brexit, c'est que ça nous rappelle que l'Europe, ça reste un choix, et un choix qu'on assume collectivement, mais un choix. Et donc, quelque part, maintenant, les Britanniques ont fait ce choix démocratique de vouloir sortir, un choix éminemment respectable, le traité l'autorise. Quelque part, il faudra aller jusqu'au bout de ce choix, parce que si, inversement, on se rend compte que sortir de l'Europe, c'est impossible, c'est trop compliqué, et on est englué dedans, le message que ça envoie, c'est que l'Europe, on est contraint d'y rester, et c'est presque une prison, et donc ça, ce serait aussi très mauvais démocratiquement. On n'est pas un empire, hein, c'est libre et non contraint. Et donc personne n'est obligé d'y rentrer. On parlait tout à l'heure aussi de la Pologne et de la Hongrie.
Justement, qu'est-ce que l'on peut leur adresser comme message ?
On est À qui, aux Britanniques ou...
Non, à la Pologne et à la Hongrie, puisque vous considériez qu'il y avait effectivement là un problème avec une association avec aujourd'hui des gouvernements qui n'ont pas la même conception de la démocratie que nous.
Ouais, j'ai envie de dire, apprenons-nous déjà à mieux connaître, à mieux comprendre l'un l'autre. C'est vrai que les histoires sont très différentes, mais on est dans les mêmes familles avec ces valeurs partagées dont on parlait. Il faut effectivement bien comprendre ce qu'on met derrière les mots et que quand on rentre dans l'Union européenne, ça implique un certain nombre de devoirs.
Un dernier mot de conclusion, Marion Gaillard.
Je partage exactement ce qui vient d'être dit. Il faut apprendre à se connaître. Et on se connaît mal, déjà parfois à l'Ouest, mais a fortiori entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et surtout, nous, les Européens de l'Ouest, nous connaissons mal l'Europe de l'Est. Donc, il faut essayer de s'intéresser à leur culture, à leur façon de penser, prendre en considération aussi ce qu'ils ont vécu pendant 40 ans pour comprendre un certain nombre des ressorts qui expliquent leur politique aujourd'hui.
Merci Sébastien Maillard. Faire l'Europe dans un monde de brutes, c'est le livre que vous avez publié chez Fayard avec Enrico Letta. Et puis votre livre, Marion Gaillard, France, Europe, politique européenne de la France de 1950 à nos jours. C'est le livre que vous avez publié chez Debecq. Merci d'avoir été avec nous.